Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 à Paris et à Bruxelles. C'est une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe qui commence jusqu'au prochain journal à midi. Avec vous, Alban Le Prince, et à la une, tout à l'heure, une parenthèse au Proche-Orient.
Oui, alors que l'armée israélienne intensifie son offensive à Gaza, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lui affirme qu'il veut récupérer tous les otages, les vivants, les morts. Eh bien, un théâtre vient de rouvrir à Jénine, en Cisjordanie. C'est le théâtre de la liberté et nous y sommes allés. Elon Musk jette l'éponge. Premier soutien de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle, le fameux Doge qui a coupé non pas au couteau mais à la hache dans les dépenses publiques. Eh bien, Elon Musk quitte son poste, il en avait la tête, il retourne à ses affaires.
Nous reviendrons également sur la Chine qui s'apprête à récupérer 19 milliards d'euros.
Un montant record qui lui sera versé cette année par des dizaines de pays en développement endettés auprès d'elle. Et puis on parlera de cette lettre ouverte signée par 150 entreprises, des mastodontes comme Ikea ou encore Leroy Merlin. Toutes appellent l'Union européenne à réduire de 90% sa pollution carbone d'ici 2040.
À tout à l'heure, Alban.
À tout à l'heure.
RFI. L'Europe à midi.
La Russie justifie ce matin les bombardements des derniers jours contre l'Ukraine, assure que les centaines de drones et de missiles envoyés chaque nuit depuis samedi représentent une réponse aux attaques contre des civils russes. Les frappes avaient atteint une intensité jamais vue en 3 ans de guerre et causé des dégâts à Kiev, mais aussi à Odessa, dans le sud. L'entrepreneur français David Carbonel y habite depuis longtemps et il raconte.
Au niveau des attaques, là, vraiment, on dirait qu'ils envoient tout ce qu'ils ont dans les stocks. C'est des nuits qui durent 4, 5, 6 heures d'attaque, en fait. C'est très intense, les alarmes n'arrêtent pas de sonner toute la nuit. Des amis qui sont militaires me disaient que les drones, maintenant, c'est des drones qui volent beaucoup plus haut. Donc, ils sont pas faciles à attraper. Les villes se détruisent petit à petit, on perd de plus en plus de gens, quand même. Et puis là, on commence à entendre des noms qu'on connaît, quand même. Tiens, tu te rappelles d'un tel, il est mort à tel endroit. On connaît pas tout le monde dans une ville. Odessa, c'est une ville d'un million d'habitants. Mais au bout d'un moment, ça commence à se rapprocher. Ça, c'est aussi l'inquiétude. Il y a le courage, mais on tient à la vie, comme tout le monde. Odessa, c'est la ville reconnue en Ukraine pour l'humour. Donc, c'est vrai qu'on va blaguer quand même. Oui, on essaye de vivre. On peut pas rester là. On va pas se mettre dans un coin, se morfondre et tout. C'est sûr que quand il y a les attaques et qu'on nous dit, y a eu tant de personnes décédées à tel endroit, ça touche. On va pas être là à faire des blagues. Mais après, la vie reprend. On essaye de continuer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en Ukraine, ils sont résilients. C'est parce que on continue. On essaye de continuer le plus qu'on peut.
Témoignage recueilli par Anastasia Becchio. Face à cette intensification considérable des bombardements russes, l'Allemagne change de ton et de ligne politique. Son chancelier a annoncé hier que désormais, son pays n'imposerait plus de limitations dans la portée des armes livrées à l'Ukraine, sans vraiment donner beaucoup de détails. De quelles armes parle-t-on, Franck Alexandre ?
Bien, ces armes, ce sont les missiles de croisière, les roquettes pour l'artillerie longue portée. L'enjeu, c'est bien de débrider toutes les armes capables de détruire des objectifs stratégique dans la profondeur du dispositif russe. Il ne faut pas oublier que pendant les 2 premières années de la guerre, les Ukrainiens ont dû se défendre avec un bras dans le dos pour éviter une escalade du conflit. Les Occidentaux refusaient que leurs armes soient utilisées au-delà de la ligne de front. Reste que le changement de posture de Berlin semble un peu tardif, car dès novembre 2024, l'ancien président américain Joe Biden a autorisé l'usage par Kiev d'ATACMS, c'est l'artillerie roquette américaine, contre des cibles en Russie. Cultivant une certaine ambiguïté stratégique, Français et Britanniques ont également, et dès le printemps 2024, donné leur feu vert à l'utilisation des missiles de croisière Scalp. Seuls les Allemands étaient véritablement réticents. L'ex-chancelier Olaf Scholz a par exemple toujours refusé de céder des missiles de croisière Taurus. C'est donc pour Berlin, et pour Berlin seulement, une nouvelle approche.
Alors pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il y a une urgence ?
Oui, le front ukrainien semble en effet fragile, avec surtout la crainte d'une offensive russe cet été pour empêcher ou freiner une manœuvre russe. Les forces ukrainiennes sont dans l'absolue nécessité de détruire les concentrations d'hommes, de matériel, les centres de commandement bien au-delà de la ligne de front. Et au vu de l'évolution de la situation militaire, il y a, semble-t-il, urgence à le faire.
Franck Alexandre, l'Allemagne rejoint donc d'autres alliés majeurs de l'Ukraine comme la France ou le Royaume-Uni pour le chancelier allemand. Cela signifie que l'Ukraine peut maintenant se défendre en attaquant des positions militaires en Russie. Le symbole est important, Mais dans les faits, le changement ne devrait pas être si radical que ça. C'est ce que dit l'ancien officier français et chroniqueur de guerre Guillaume Ancel.
En fait, c'est l'annonce qui est nouvelle. Effectivement, dans les faits, les Français et les Britanniques avaient déjà donné leur autorisation d'utiliser les munitions qu'ils livrent contre le territoire russe. On sait depuis quelques jours que les États-Unis ont autorisé les Ukrainiens, ou plutôt les aident, parce que pour faire cela, il faut le renseignement américain. Ils aident les Ukrainiens à aller frapper en profondeur dans le territoire russe des usines qui soit fabriquent des armements, notamment les fameux drones qui bombardent toutes les nuits l'Ukraine, soit des éléments importants pour la vie de la société russe, comme les hydrocarbures. Par conséquent, ce que fait Friedrich Merz, c'est que non seulement il dit clairement que l'Allemagne rejoint le club des alliés de l'Ukraine, qui dit « mais évidemment, vous avez le droit de vous défendre », il ne précise pas s'il livrera ou pas les missiles allemands aux Russes, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qu'il nous dit aussi, Friedrich Merz, c'est que les États-Unis ont aussi donné leur autorisation, alors qu'on voit bien que Donald Trump ne souhaitait pas le dire publiquement.
Guillaume Ancel, ancien officier français et aujourd'hui chroniqueur de guerre. Le Kremlin, de son côté, déplore une décision assez dangereuse après donc cette annonce de la part de l'Allemagne. Nous en parlons régulièrement ici. L'Europe est en train de se réarmer, de se renforcer face à la menace russe. Les 27 ont d'ailleurs adopté ce matin un accord définitif pour faciliter leurs achats en commun dans ce domaine. La Roumanie est en première ligne et un grand chantier y est lancé sur la base militaire de la mer Noire pour construire une nouvelle piste d'atterrissage. Si tout va bien, cette base de l'OTAN pourrait accueillir à terme près de 10 000 soldats. Reste à savoir de quelle nationalité, car les États-Unis de Donald Trump entretiennent toujours le flou sur leurs intentions. Reportage Marine Leduc.
Tractopelles, pelleteuses et camions enchaînent le travail dans une chorégraphie minutée. Ici, à Mykhailo-Golnitchiano, à 30 km de la mer Noire, la grande base aérienne de l'OTAN est en plein chantier. Une nouvelle piste aérienne est en construction et devrait voir le jour dans 2 ans. Le commandant de la base, le général Nikolaï Kretsou, montre les avancées des travaux.
On espère que cet été, nous allons commencer à couler le béton. Ce que vous voyez là-bas, les marquages rouges, sont les systèmes de balisage de la piste.
Cette implantation militaire, laissée en désuétude après la période communiste, a d'abord accueilli des soldats américains en partance pour l'Afghanistan et l'Irak. Après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, elle est devenue un avant-poste de l'Alliance Atlantique face à la menace russe. Alors que la guerre fait rage en Ukraine voisine depuis 2022, les capacités se sont renforcées. La Roumanie est aux premières loges face à la menace russe et des drones qui visaient l'Ukraine ont parfois atterri sur le territoire roumain dans le delta du Danube. Face à ces menaces, les États-Unis demeurent le premier partenaire militaire et stratégique de la Roumanie. Si bien qu'un autre sujet enflamme les discussions, même chez les habitants de Mykhailo-Golnitchiano, celui du possible retrait des troupes américaines en Europe, qui serait discuté par l'administration Trump. Le ministère roumain de la Défense a toutefois démenti ces propos. Pour Christy, un restaurateur de 42 ans qui a grandi ici, les discours du président américain amènent beaucoup de confusion.
Aujourd'hui, tu es avec moi, demain, tu n'es pas avec moi. Que les Américains nous disent clairement ce qu'ils prévoient, ce qu'ils veulent faire de ce pays, pour qu'on sache à quoi s'en tenir.
À Constanza, la grande ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres, les cargos attendent de charger les céréales ukrainiennes. Dorine Popescu, analyste en géopolitique de la mer Noire et ancien ambassadeur à Moscou, ne pense pas que le projet d'agrandissement de la base sera abandonné.
J'ai du mal à croire qu'une alliance aussi forte et solide soit capable de laisser les choses à mi-chemin à un moment donné. Cela créerait ou augmenterait un déficit de sécurité de l'Europe et ce n'est pas non plus dans l'intérêt des Américains.
La Roumanie investit donc de plus en plus dans la défense. En 2024, le budget s'est élevé à 8 milliards d'euros, soit 25% de plus que l'année précédente. Marine Leduc, Constanza, RFI.
Reportage Accent d'Europe à réécouter à partir de 17h10 temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
À quelques jours d'un second tour de la présidentielle qui s'annonce très serré en Pologne, le journal Wyborcza se fait l'écho aujourd'hui de malversations liées au candidat conservateur Karol Nawrocki. La Cour des comptes a constaté que près de 30 millions de zloty ont été dépensés de manière incorrecte lorsqu'il était le président de l'Institut de la mémoire nationale. De très nombreux journaux européens reviennent sur la situation à Gaza. C'est le cas notamment du Guardian, du Soir ou encore d'El País qui cite des informations d'Israël annonçant que le Hamas aujourd'hui comprend 40 000 combattants à Gaza. C'est le même nombre qu'avant les attaques du 7 octobre 2023. Et puis El País fait aussi discuter aujourd'hui une biologiste et un paléo-anthropologiste sur la manière de bien vieillir. Ça nous concerne tous. Premier constat positif, nous sommes passés d'une vie de chimpanzé d'environ 45 ans à 85 ans environ. En seulement 2 millions d'années, nous nous en sortons pas si mal. Et pour bien vieillir, pas de scoop, hein. En plus de la génétique sur laquelle on n'a pas de prise, il faut bien manger, faire de l'exercice et se reposer. Le sommeil est démocratique, universel et gratuit, titre le journal. Et pourtant, personne ne dort.
RFI, l'Europe à midi.
L'Espagne qui demande à l'Union européenne de faire de ses langues régionales des langues officielles. Le gouvernement a déposé aujourd'hui à l'ordre du jour des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne la reconnaissance du basque, du galicien et du catalan. C'est beaucoup plus en fait qu'une simple reconnaissance que demande le gouvernement espagnol. Il veut donc que ces langues deviennent des langues officielles. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
On vient d'apprendre qu'en fin de compte, les ministres européens avaient décidé de ne pas se prononcer aujourd'hui.
Oui, et ça paraissait à peu près plié d'avance. Il y avait encore un petit espoir pour le gouvernement espagnol. Mais dès les premières interventions des ministres des 26 autres pays membres, certains ont demandé à l'Espagne de retirer sa demande d'un vote formel aujourd'hui, estimant qu'il y avait encore à résoudre des questions d'une part financières et d'autre part des questions juridiques, une question prématurée selon eux. L'Espagne a proposé cependant de prendre à sa charge la traduction, la mise à disposition d'interprètes et de traducteurs pour la langue basque, la langue galicienne et la langue catalane, mais ça n'a pas suffi pour les ministres qui estiment qu'il y a aussi des questions juridiques. Il y aurait une solution en prenant seulement des langues déjà officielles dans les États membres, mais pour l'instant, les ministres ont décidé de ne pas décider. Il faut encore élaborer et encore travailler sur la question.
Alors cette question-là, pour l'Espagne, c'est une demande qui est avant tout politique ?
C'est d'ailleurs une demande directement issue de l'accord de gouvernement qui permet à Pedro Sanchez de se maintenir actuellement au poste de Premier ministre pour son troisième gouvernement, plus précisément de président du gouvernement espagnol. Son parti a eu besoin en 2023 du soutien de la gauche républicaine de Catalogne afin de pouvoir obtenir l'investiture des Cortes, le Parlement espagnol. Il y a donc eu un accord, d'abord sur la mise en place d'une loi d'amnistie pour les initiateurs du référendum de 2017 sur l'indépendance de la Catalogne, et le parti Junts per Catalunya de Carles Puigdemont a embrayé, signé lui aussi un accord avec les socialistes du PSOE, et dans cet accord figurait cette perspective d'une reconnaissance culturelle et politique dans l'Union européenne. Et pour Pedro Sanchez cette année, la question reste brûlante, car il y a toujours besoin du soutien des partis catalans au Cortes en particulier, en vue d'un vote qui s'annonce très serré sur le budget à l'automne prochain.
Alors il faut dire quand même que ça n'est pas la première fois que l'Espagne présente cette requête à ses partenaires européens. On en avait déjà parlé en 2023.
Oui, effectivement, juste après cet accord de gouvernement, le troisième, donc dirigé par Pedro Sanchez, ça avait été présenté déjà au Conseil de l'Union européenne. Le Parlement s'était montré plus ouvert, mais au sein du Conseil, ces questions financières et juridiques avaient déjà été évoquées. On avait estimé qu'il s'agissait d'un geste symbolique de la part du gouvernement de Madrid, et on avait dit déjà à l'époque qu'il s'agissait d'un geste prématuré. Avant l'offensive diplomatique qui a remis aujourd'hui la question à l'ordre du jour, le président de la Généralité de Catalogne est venu en personne, c'était il y a 3 mois, à Bruxelles, plaider pour une reconnaissance de ces 3 langues. Le catalan parlé selon lui par 10 millions d'Européens, en Espagne, en France. En outre, du basque parlé aussi en France, ainsi que du galicien. Ces 3 langues représentant au total 20 millions de locuteurs. Et une intégration à la liste des langues officielles de l'UE serait pour lui un signe de respect de ses citoyens qui ferait ainsi pleinement partie de l'Europe.
Voilà, mais en fait, pour les autres États membres de l'Union européenne, la réponse à apporter n'est pas du tout plus simple qu'il y a 2 ans.
Non, effectivement, c'est une question véritablement politique. Elle est tout autant, par exemple, que la question de la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Il pourrait y avoir des populations irrédentistes ou bien des tendances centrifuges dans plusieurs pays de l'Union européenne. On sait, par exemple, que la France refuse la charte européenne des langues minoritaires. On sait qu'il y a des populations extrêmement demandeuses de reconnaissance en Europe et beaucoup de gouvernements sont relativement frileux car ils craignent, en réalité, une contagion de ce qui pourrait se passer en Espagne. Pour le catalan, pour le basque et le galicien.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Dominique Dezonnet, vous nous parlez aujourd'hui de conquête spatiale, de la Lune, délaissée pendant des décennies mais qui suscite de nouveau les convoitises des États-Unis, même si la NASA a revu ses ambitions à la baisse, et surtout de la Chine et de la Russie qui ont prévu ensemble de construire une centrale nucléaire sur la Lune.
Oui, le grand retour sur la Lune se précise, indiquent les agences spatiales russes et chinoises. À l'origine, leur projet commun était de concurrencer les missions Artemis prévues par la NASA, mais voilà, l'agence spatiale américaine risque de voir son budget alloué par l'administration Trump baisser de plus de 2 milliards de dollars en 2026. La NASA avait déjà prévu de repousser l'alunissage de ses astronautes qui était attendu courant 2026 à 2027, soit juste un an avant la date annoncée par la Chine. Par ailleurs, l'énorme fusée SLS de l'agence américaine qui a été jugée trop coûteuse sera abandonnée après ses trois petits lancements vers la Lune des missions Artemis. Idem pour la station en orbite lunaire américaine dénommée Gateway qui passera définitivement à la trappe selon un document publié par la Maison Blanche. Des retards à l'allumage donc dans cette conquête spatiale américaine qui profite allègrement à la Chine et à la Russie. Les deux pays ont signé un contrat en s'engageant à construire une centrale nucléaire sur la Lune qui sera chargée d'alimenter en énergie une future base permanente sur notre satellite.
Et il est précisé que la construction du réacteur se fera sans présence humaine.
Effectivement, une fabrication in situ qui serait entièrement robotisée, expliquait récemment le directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos. Le réacteur miniaturisé qui est produit par la Russie, le matériel sera acheminé par la Chine. La mise en activité de la centrale nucléaire est prévue pour 2036. 17 pays, dont l'Égypte, le Pakistan, le Venezuela, la Thaïlande et l'Afrique du Sud, participent au projet. Des travaux importants seront menés dès 2028 lors de la mission Chang'e 8 qui posera le premier astronaute chinois sur la surface lunaire. Les pièces principales de la base lunaire seront alors envoyées de 2030 à 2035 pour leur auto-assemblage. Cette station intégrera d'ailleurs des réseaux de communication Lune-Terre à haut débit pour piloter un Hopper, par exemple, un véhicule longue distance sans pilote et des rovers habités, pressurisés et non pressurisés, indique aussi le responsable de l'agence chinoise.
Il y a cette ambition nucléaire, mais les ressources naturelles aussi intéressent beaucoup Moscou et Pékin.
Oui, notre satellite recèle de précieux gisements d'oxyde métallique, de silicium, de titane, de métaux rares et d'aluminium. Mais la ressource qui attire toutes les convoitises est sans doute l'hélium-3. Cet isotope quasi inexistant sur Terre est considéré comme le combustible idéal pour les futures centrales à fusion nucléaire, pour qu'elles fonctionnent pleinement et en sécurité. Cette ressource permettrait de répondre aux besoins énergétiques de l'humanité pendant environ 10 000 ans, selon les dernières évaluations réalisées par les scientifiques chinois.
Dominique Dezonnet, à demain.
RFI, l'Europe à midi.
Reportage en Grèce, sur l'île de Santorin, devenu un symbole du tourisme estival, voire du surtourisme. Son paysage de carte postale que les visiteurs du monde entier adorent afficher sur Instagram. L'île le doit à une puissante éruption volcanique il y a plus de 3500 ans. Mais aujourd'hui, ce terrain volcanique pourrait bien lui coûter cher. Au début de l'année, des milliers de séismes de faible intensité ont de nouveau perturbé pendant tout un mois le quotidien de Santorin. Résultat, Joël Brunner, une forte baisse de la fréquentation en ce début de saison.
Si Santorin la photogénique attire autant, c'est en raison de sa situation géologique unique à la surface d'un volcan géant, en partie englouti sous les eaux. Sur l'île, Adonis Pagonis est président du syndicat des hôteliers. Il dépeint une situation touristique difficile, plombée par les incertitudes économiques au niveau mondial et bien sûr les séismes du début d'année. Le professionnel évoque des réservations en baisse de 25 à 30% par rapport à l'an dernier.
Février et mars sont des mois cruciaux pour les réservations des autres continents. Les Américains, les Asiatiques ou les Australiens ne réservent pas à la dernière minute un voyage pour Santorin. Seuls des voyageurs européens le font. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations ici, mais en revanche, il y a eu un gel important des réservations. À titre d'exemple, certains hôtels sont passés de 20 réservations par jour à zéro.
Moins de visiteurs ne signifie pas que Santorin est vide pour autant. En particulier au niveau des deux villages principaux que sont Phira et Ia, ornés de ces façades blanchies à la chaux, caractéristiques de l'archipel des Cyclades. Pour preuve, la réaction de Guylaine, membre d'un groupe de 4 sexagénaires venus de la région d'Orléans, dans l'optique de randonnée.
Je ne sais pas si vous étiez déjà venu, mais donc il y a moins de monde que d'habitude. Est-ce que ça a participé à votre expérience? Comment vous l'avez vécu?
Il y a moins de monde que d'habitude. Ah, d'accord. Eh bien... Pour nous, c'était une découverte, une vraie découverte. On avait pris nos billets il y a déjà très longtemps. Voilà, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de tourisme. Alors, peut-être moins que d'habitude, mais pour nous, c'était beaucoup.
L'an dernier, Santorin, un des symboles du tourisme de masse en Grèce, a accueilli plus de 3 millions de visiteurs sur son sol volcanique. En ce mois de mai, synonyme de début de saison touristique, leur nombre est donc toutefois en nette diminution. Une situation qui n'est pas pour déplaire à Émilie, la quarantaine, vacancière originaire des Vosges.
Alors moi, je suis très très habituée de la Grèce, où je suis beaucoup venue au fil des années. J'ai toujours renoncé à Santorin par crainte, je dois bien l'avouer, des hordes de touristes. Et cette année, j'ai entendu qu'il y avait eu une petite alerte sismique, qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Et donc je me suis décidée un petit peu au dernier moment pour venir visiter Santorin. Et je ne le regrette pas.
Dans le hall de l'aéroport de Santorin, juste avant leur vol retour, l'heure est au bilan du séjour pour Louise et Brahima, couple de Parisiens de 22 et 25 ans.
Parfois, tu mangeais, il n'y avait presque personne. La nourriture est hyper bonne, donc ouais, c'était assez agréable.
En début d'année, à Santorin, un tremblement de terre a atteint 5,3 sur l'échelle de Richter. C'était le plus puissant d'une série de plus de 23 000 séismes de faible intensité, tous n'ont d'ailleurs pas été ressentis, qui ont touché l'île entre janvier et février. De quoi susciter au départ quelques interrogations dans la famille de Louise.
Ouais, un peu inquiet, moi j'y ai pas pensé. Ma maman m'a tout de suite envoyé en février, justement, quand il y a eu les tremblements. Elle m'a dit « Quand est-ce que vous partez ?»« Si vous y allez bientôt, n'y allez pas. » Donc je lui ai dit « T'inquiète pas maman, on part en mai, donc je pense que ça ira. » Mais on y a pensé. Moi, ici aussi, en y étant, j'y ai pensé de temps en temps, me disant « Oh tiens, là, s'il y avait un tremblement, tout ça. » Mais non, ça nous a pas plus inquiété que ça.
Konstantinos Karamolegos, lui, n'était pas serein au moment des séismes de l'hiver. Avec 3 enfants en bas âge, sa femme et lui ont même hésité à quitter l'île quelque temps avant de finalement choisir de rester. Ce père de famille travaille sur une exploitation viticole où les touristes peuvent visiter un musée du vin et goûter des boissons qui expriment le terroir volcanique de l'île.
La fin de la saison touristique sera sûrement meilleure et je pense que cette mauvaise publicité peut parfois aussi attirer du monde. Certains touristes étrangers viennent ici en se disant que Santorin pourrait disparaître un jour et qu'il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie.
Dans ce café de l'entrée du village de Ia, idéalement situé pour attirer la clientèle, on se montre optimiste pour la suite de la saison.
L'île est en phase de reprise. Nous pensons que pour nous, les mois à venir seront très bons, surtout grâce aux réservations de dernière minute. En mars et en avril, il y a eu un coup dur pour l'économie locale, mais nous pensons que ce n'était que temporaire.
Pour l'heure, à Santorin, les séismes de l'hiver continuent néanmoins à faire trembler les chiffres de la fréquentation saisonnière.
Reportage de Joël Bronner à réécouter dans l'émission Accent d'Europe, émission disponible sur l'appli RFI Pure Radio. Comme chaque jour, rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, la romancière et journaliste Jocelyne Sauvard pour parler de son dernier ouvrage, une biographie d'Antoinette Fouque, la fondatrice du MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Entretien au micro d'Elisabeth Le Quéret.
Jocelyne Sauvard, bonjour.
Bonjour.
Antoinette Fouque, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sa biographie ?
Eh bien, Antoinette Fouque, je la connais depuis très longtemps. Je l'avais rencontrée au Jardin du Luxembourg avec une équipe d'étudiantes qui était autour d'elle. Et donc, je m'étais beaucoup intéressée à ce qu'elle disait. On en parlait dans les journaux, dans Libération, etc., d'Antoinette Fouque.
C'était en quelle année,
c'était les années 78, 80, par là.
Parler d'Antoinette Fouque, Jocelyne Sauvard, c'est aussi raconter la naissance du MLF.
Oui.
En quoi son approche se distinguer des autres mouvements féministes de l'époque?
Dès qu'elle a créé le MLF avec son amie Monique Wittig, elle est allée très vite dans le sud, elle est allée très vite en Italie, un peu partout, pour raconter ce que c'était ce MLF-là, et pour donner vraiment une grande ouverture. Elle a eu l'idée de veiller sur les études, veiller sur le travail, veiller sur la grossesse, veiller sur le choix, j'aurai un enfant si je veux, quand je veux, etc. N'oublions pas que l'IVG, etc., ça revient sur le tapis, par exemple en Pologne, aux États-Unis. Donc c'est toujours d'actualité. Et de plus, elle s'est intéressée aux voix, parce que comme sa mère ne savait pas lire, il fallait lui lire les histoires. Et comment lui lire les histoires? On pouvait pas lui lire les histoires tous les jours. Donc elle a créé la bibliothèque des voix, c'est-à-dire elle enregistrait sur CD. Et donc la voix des femmes.
Antoinette Fouque, c'est une femme donc joyeuse, pleine d'humour, très intelligente.
Oui.
C'est aussi une femme très politique.
Très politique.
Et qui a le sens du pouvoir. Et d'ailleurs, elle comprend très rapidement qu'il est important pour elle de monter, d'écrire beaucoup, bien sûr.
Elle avait surtout un talent fou.
Et surtout de créer une maison d'édition qui va rester emblématique, les éditions des femmes.
Oui, d'abord c'était très menu, les réunions pouvaient avoir lieu dans une chambre. Après ça a été rue de Seine.
Vous mettez en avant son engagement auprès des femmes du monde entier, luttant pour leurs droits.
Oui.
Entre autres, sa grande amie était la féministe tunisienne Khadija Cherif.
Oui. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Afrique avec lesquels elle a tissé des liens?
Oui, d'autres pays d'Afrique, mais aussi d'autres pays du monde. Elle était très liée comme ça au Vietnam par la richesse de la culture.
Elle était liée aussi à la pakistanaise Taslima Nasrin?
Oui, exactement. Et très fort, parce que cette femme était menacée. On voulait la tuer. Et donc, dans ces cas-là, Antoinette, elle envoyait un mot à la personne touchée et elle lui disait « Venez chez moi, venez dans le sud, on sera bien, etc. » Et beaucoup lui ont voué une grande, grande amitié, et plus que ça, parce que vraiment, elle leur a sauvé la vie.
Jocelyne Sauvard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Jocelyne Sauvard au micro d'Elisabeth Le Quéré. Son livre Antoinette Fouque, l'irréductible de la libération des femmes, est paru aux éditions Flammarion. Dans 3 minutes sur RFI, un nouveau journal, l'essentiel de l'actualité internationale, et puis à 12h30 temps universel, l'actualité africaine comme chaque jour. Avec vous Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une aujourd'hui,
l'Afrique du Sud prête à acheter du gaz américain pour éviter des hausses de droits de douane et sauver son secteur automobile. C'est l'accord proposé par Cyril Ramaphosa à Donald Trump. Les deux chefs d'État se sont vus la semaine dernière à Washington. Des détails ont été donnés hier. Et puis en République démocratique du Congo, nous verrons ce qu'a dit l'auditeur militaire à la commission sénatoriale chargée d'étudier la demande de levée d'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Nous avons pu consulter son rapport.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. On vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et tout de suite, on écoute un peu de musique. Avec un titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI, Sabado Anoit, c'est un titre de Je sais où Georges.
Todo mundo vai pra festa, que beleza. Já me chamaram de Wilson Simonão. Todo mundo vai pra festa. Gastando sapato, sentido a baixa do sapateiro. Pertinho, vizinho do mercado das 7 saídas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? É aquele balanço de negão. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Mistura. pra carimbó, atabaque, funk, funk, funk. Ah, estou nos braços da noite, não ando cheio de assunto. Amor, eu tenho de estoque, estou aqui pra paquerar. Nos braços da noite, eu ando cheio de assunto. Amor, eu tenho de estoque. Vai ter som, vai ter sol, tu vai ver só.
Vai ter som, vai ter sol, vai ver só.
Vai ter som, vai ter sol, tu vai ver só.